Bon, bah bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à cette session qui va concerner SQL Server 2012 et les nouveautés côté développement. Donc je me présente, je m'appelle David Barbarin, je suis Database Architect chez Essentia et mon collègue Steven, qui est DBA SQL Server. Donc on aura le plaisir de vous présenter les nouveautés SQL Server tout au long de cette session. Donc avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose simplement de présenter rapidement notre société. Donc, qui sommes-nous? Ben, avant, certains peut-être nous connaissaient sous le nom de Pragmantic. Donc, Essentia est issu en fait d'une fusion de deux sociétés, Pragmantic et Peralion. On est maintenant 55 collaborateurs sur un total de 400 au niveau Velti Group. On est présent partout en Suisse, Genève, Lausanne, Berne, Zurich, avec une plus forte connotation en Suisse romande. On est Gold Partner, on gère l'ensemble de l'ICT en principe, de l'infrastructure jusqu'aux applications mobiles. On a six grands domaines de prédilection chez nous, donc on est la partie applicative de Velti Group, les Collaborative Solutions, les ECM, gestion de contenu, les Social Business Services, donc bien sûr avec une forte connotation SharePoint. Une partie data management et business intelligence dont je fais partie. Donc avec là on a plus une expertise sur les technologies SQL Server. Et enfin au niveau des business solutions, donc on gère les business solutions avec principalement axé sur Dynamics NAV CRM. Donc voilà. Donc rentrons dans le vif du sujet. Donc à l'agenda de cette session, on va voir, on va essayer en tout cas de passer en revue l'ensemble des fonctionnalités SQL Server côté développement. Donc ça concerne les outils SQL Server, on verra qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Les nouvelles fonctionnalités côté code, Transact SQL, etc. Il y a pas mal de choses là aussi qui sont arrivées. Et on va enfin terminer avec la performance et un nouveau type d'index qui est apparu avec SQL Server 2012, les index Column Store. Donc simplement un petit sondage, qui fait du SQL ici, vraiment? Bon bien, mais vraiment du SQL Server, du SQL? Ah bah voilà, très bien. Allez, on commence avec les outils SQL Server. Donc c'est moi qui vais faire cette partie-là. Donc la grosse nouveauté au niveau des outils, c'est l'intégration de Visual Studio avec les outils SQL Server, que ce soit SQL Server Management Studio, que ce soit SQL Server Data Tools, un nouvel outillage proposé aux développeurs avec SQL Server 2012. On va dire une intégration avec PowerShell qui a été revue. Et enfin, un nouvel environnement de base de données pour nous les développeurs. Donc on verra tout ça. Donc je vous propose tout de suite de passer à une démo. Donc ça sera principalement axé sur la démo, sur cette session. Oui, ça a l'air d'être pas mal. Donc, vous voyez déjà, je crois que ça va. Attendez, je vais juste changer la résolution. En espérant que ça aille beaucoup mieux. Oui, c'est un peu mieux. Donc vous voyez déjà, on a déjà un look un peu plus Visual Studio. Donc sur le fond, en termes de gestion de base de données, ça a pas changé, ça reste toujours la même chose avec notre Object Explorer ici. Ce qui a changé, c'est l'intégration, donc je vous disais, avec Visual Studio. Donc on va simplement, donc je vais simplement ouvrir mon projet solution qu'on utilisera tout au long de cette session. Donc je vais juste ouvrir, voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé? Tout ce qui est, on va dire, intégration avec Visual Studio. Simplement, je vais vous parler déjà, une fonctionnalité qui peut être utile en soi, c'est le zoom. Vous voyez ici que je peux zoomer sur mon code. Donc ça existe déjà sur Visual Studio, mais on n'avait pas ça côté SQL Server Management Studio. L'ancrage des fenêtres, qui est, à notre sens, très utile. Donc en fait, on peut très bien rendre indépendantes nos fenêtres de cette manière. J'ouvre une nouvelle fenêtre, par exemple. Voilà, hop. Et l'intérêt de ça, c'est de pouvoir travailler avec du multi-écran. Alors moi, lorsque je veux pouvoir comparer des résultats ou quand je travaille avec beaucoup de code SQL, bah avec SQL Server 2008, on n'avait pas le choix soit de mettre les fenêtres en cascade, donc c'était pas forcément toujours pratique, ou soit d'instancier plusieurs SQL Server Management Studio. Donc là, on va pouvoir très rapidement, en fait, bah, on va pouvoir désancrer nos fenêtres et les utiliser sur un support multi-moniteur. Ensuite, de quoi on peut bénéficier ? Ben, du fameux clipboard. On va pouvoir se balader dedans. Là, vous voyez que je copie ce que j'avais au-dessus, le code que j'avais au-dessus. Si je fais un CTRL-SHIFT-V, je vais pouvoir me balader dans mon clipboard. Donc ça peut être pas mal d'aller récupérer, comme ça, se balader, d'aller récupérer les infos dont on a besoin, ce qu'on ne pouvait pas faire avec SQL Server 2008 et Management Studio. Le Surrounded With, donc ça je pense que ceux qui font du .NET connaissent bien. Voilà, j'ai pris un exemple très simple, mais simplement si je fais ça. Imaginez que vous ayez du code où vous êtes obligé de défiler votre fenêtre. Bah, pour pouvoir, par exemple, intégrer un if begin end, bah, ce n'était pas forcément facile. Il fallait bien repérer où est-ce qu'on voulait mettre son if et son begin. Donc là, il suffit d'entourer maintenant son code et faire un contrôle KS, et puis dire, bah voilà, moi je vais mettre ici un while, hop, j'ai juste à remplir ma condition, et le tour est joué. Après les snipers qui sont avec Visual Studio, bah, je vais pouvoir par exemple aller contrôle KX, aller récupérer un script de table que j'aurais défini, et puis derrière je vais pouvoir créer ma table de cette manière, où je vais pouvoir par exemple utiliser dans custom sniper, aller définir mes propres templates. Là, j'ai créé un template de rôle de serveur qui est aussi une nouveauté SQL Server 2012 côté admin. Donc voilà, on peut gérer également nos snipers directement. On a un manager pour ça, comme sur Visual Studio. On va pouvoir insérer, modifier ses propres templates. Et enfin, le debugging. Donc avant, quand je mettais un breakpoint sur ma ligne, la seule chose que je pouvais faire sur 2008, c'était soit supprimer le breakpoint, soit l'effacer. Maintenant, vous voyez qu'on a tout un tas de choses ici. On va pouvoir définir, bah, par exemple, je veux pouvoir arrêter mon code lorsqu'il atteint une certaine ligne et un certain nombre de caractères. Je vais pouvoir définir une condition. Par exemple, ici, moi, je veux que mon breakpoint s'active lorsque i égale 10, par exemple. Donc là, si je fais des bugs, donc vous voyez qu'ici, j'ai i égale 10. Je pense que tout le monde voit. Et je peux j'arrête mon breakpoint à ce moment-là. Ce que je peux faire aussi, c'est bah, comme quand je suis dans une boucle, bah, déclencher un breakpoint en fonction d'un hit count, d'un nombre de passages dans ma boucle. Donc vous voyez qu'ici, je peux définir certaines conditions, arrêter lorsque le hit count est égal à, arrêter lorsqu'il est multiple de, etc., etc. Donc je ne vous les fais pas toutes, mais vous voyez qu'ici, on a des fonctionnalités de débogage qui ont été améliorées au niveau du code Transact SQL. Donc voilà au niveau SSMS, donc il y en a d'autres, hein, mais c'est celle qui nous paraissait le plus pertinente. Ensuite, comme je vous disais, on a un nouvel environnement, SQL Server Data Tools, qui est arrivé avec SQL Server 2012. On a une intégration donc, avec Visual Studio, donc 2010 SP1 ou 2012 dernièrement. Donc, on va pouvoir créer... Alors, quel est l'intérêt de cet outil-là ? Bah, avant, quand on voulait, avec SQL Server 2000, jusqu'à SQL Server 2008, lorsqu'on voulait créer des projets BI, il fallait utiliser Business Intelligence Development Studio. Et lorsqu'on voulait créer des projets de base de données, il fallait utiliser Visual Studio et le template adéquat. Bah, aujourd'hui, on a un seul environnement pour tout faire. Donc, vous voyez ici que je peux très bien gérer des projets de type Business Intelligence, soit des projets de type SQL Server. Il y a d'autres nouveautés aussi. Alors, je rentre pas dans le détail de ces outils-là, parce que ça nous prendrait facilement une heure. Donc, on n'a pas le temps, si on veut tout survoler. Donc, voilà. Au niveau de PowerShell, donc, bon, on a un alignement de... Alors, qui connaît sqlps.exe sur SQL Server ? Personne. Donc en fait, quand on fait du PowerShell avec SQL Server, on pouvait lancer jusqu'à 2008 R2 un petit utilitaire qui s'appelait sqlps.exe. C'est ni plus ni moins qu'un mini shell PowerShell avec l'ensemble des commandes et fonctions pour pouvoir gérer une instance SQL Server. Alors le problème, c'est qu'avec le mini shell, on ne pouvait pas ajouter des snap-ins autres que ceux qui étaient chargés dans l'environnement. Donc ça pouvait être un peu embêtant. Donc c'était basé sur un PowerShell V1. Maintenant, on a un alignement vers PowerShell V2, ça veut dire qu'on va pouvoir gérer SQLPS non plus comme un utilitaire en tant que tel, mais comme un module. Donc on va pouvoir intégrer, charger le module dans des scripts PowerShell, c'est beaucoup plus pratique. Donc si je fais import module SQLPS, je viens charger mes assemblées et mes fonctions destinées à gérer une instance SQL Server. Si je fais un get commande ici, de mon module, si je ne mets pas SQLPS, ça ne va pas le faire. Voilà. Vous voyez qu'ici, je peux avoir accès à l'ensemble des assembly pour gérer SQL Server et à l'ensemble des fonctions. Donc, on charge ce genre de choses. On a et le provider pour pouvoir se balader dans SQL Server comme une hiérarchie de fichiers classique et les commandes associées, les fameux assembly. Enfin, on a un nouvel outil qui est apparu en termes d'environnement de base de données. Donc, quand on développe des solutions avec SQL Server, je suis un développeur, je ne sais pas, .NET, et je veux une base de données, j'ai besoin de travailler avec une base de données. Donc, en général, qu'est-ce que je fais? J'installe SQL Express. Donc, le problème avec SQL Express, à la base, SQL Express n'était pas forcément fait pour faire de la production et faire du développement. Aujourd'hui, la tendance de Microsoft, c'est d'utiliser SQL Server Express comme de la production simple, pour des besoins simples. Donc ça veut dire qu'il faut aligner cette édition légère aux autres éditions. Donc plus les versions de SQL Server augmentent, et plus la complexité de SQL Server Express augmente également. Moi, en tant que développeur, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de complexe à installer. Moi, je veux faire mon programme, je veux une base de données, et puis terminé. Alors qu'est-ce qui se passait avant? David, il faut installer une base de données pour mon programme. T'installes SQL Server Express. J'ai besoin d'installer une autre instance. T'installes la deuxième SQL Server Express. Et les comptes de service, il faut que tu les mettes comme ci, comme ça. Moi, ce que je veux, c'est une base de données et puis point barre. Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec des comptes de service, la sécurité, des choses dont je n'ai pas besoin quand je fais du développement. Donc, comment? Alors aujourd'hui, est-ce que Microsoft fournit un petit utilitaire qui s'appelle SQL Local DB, qui permet d'instancier des instances SQL Server très rapidement, très simplement. Il suffit en fait d'installer un MSI. Vous voyez ici, SQL Local DB MSI. Vous voyez ici, ça fait 33 MB. C'est rien. Une fois que vous l'avez installé, vous avez un petit utilitaire qui s'appelle SQL Local DB. Avec des commandes, là ici j'ai deux instances, une par défaut qui s'appelle v11.0 avec localdb et une instance project. Bon voilà, je me place dans un cas, j'ai besoin d'une instance pour travailler avec mon projet .NET. Et je fais SQL localdb create my instance par exemple. Voilà. Je démarre mon instance. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. C'est quand même royal. Il n'y a pas besoin d'installer SQL Server Express, attendre X temps, résoudre les problèmes d'installation, etc. Donc là, ça va. Comment j'utilise ça? Avec SQL Server Data Tools, et je pense qu'avec Visual Studio, je n'ai pas vérifié, il faudrait simplement le confirmer. Par défaut, on va pouvoir utiliser l'instance LocalDB. C'est... Voilà, j'ai juste à faire add instance ici. Et voilà, je peux travailler avec mon serveur de base de données. Donc là, je n'ai pas créé de base, il suffirait de faire add new database. Et puis voilà, je peux commencer à développer. C'est quand même beaucoup plus rapide que d'installer un SQL Server Express. Alors, il faut bien sûr pouvoir, pour pouvoir commencer à développer avec SQL LocalDB, c'est d'utiliser le framework 4. Avant, on ne peut pas. Il faut savoir aussi que lorsqu'on crée une instance, alors l'avantage, c'est que la personne, donc le contexte utilisateur qui crée cette instance-là, sera propriétaire de l'instance SQL Server. Personne d'autre pourra y avoir accès. Donc après, il y a possibilité de partager les instances. Bon, après, on rentre dans un autre débat. Donc voilà, au niveau des outils, on a fait un peu le tour. Donc, il y a pas mal de choses qui arrivent avec SQL Server Data Tools et puis les projets BI, mais là aussi c'est pareil, il faudrait plus d'une heure pour vous présenter l'ensemble. On fera peut-être ça lors d'une autre session peut-être. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais laisser la parole à Steven. Steven, lui, va vous présenter toutes les nouvelles fonctionnalités, donc en grande partie concernant le code SQL, toutes les fonctionnalités arrivées avec Transact SQL. Donc Steven, je te laisse la main.
Voilà. Donc je crois que tout est dit. Donc je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités qui sont apparues dans le langage SQL, donc purement le code, quoi, hein, les nouveautés du code SQL pour SQL Server 2012. Donc ça va des séquences au paging, au result set. Je vais vous présenter un peu tout ça. Donc il y a des fonctionnalités qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. Il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont apparues sur SQL Server 2012, mais qui ne sont pas de grosses révolutions, c'est juste de la simplification de code finalement. Donc je vais passer assez rapidement dessus. Mais donc je vais vous présenter tout ça en démo. Donc je vais commencer avec les séquences. Voilà, donc les séquences, c'est un objet SQL que vous connaissez peut-être sur Oracle. Donc la séquence, c'est un objet qui va nous permettre de générer des objets, des valeurs numériques en fait. Hein. C'est un générateur de valeurs numériques. Donc voilà comment ça se présente, la création d'une séquence. Donc on a un ordre SQL tout simple, hein, create séquence. On spécifie une valeur minimum, une valeur maximum, la valeur de départ et puis le pas d'incrément. Et à chaque fois qu'on va appeler la séquence, elle va nous fournir une valeur. Voilà. Donc la séquence, on va l'utiliser principalement pour alimenter la clé primaire d'une table ou de plusieurs tables. On va le voir tout à l'heure. Voilà. Donc avec un nouvel objet SQL, forcément, on a de nouvelles vues qui vont nous permettre d'accéder à la description des objets. Donc ici, on a 6 séquences. J'ai pas créé ma vue, pardon.
Ta séquence, ouais.
Voilà, ma séquence. Donc, ici, j'ai la description de ma vue. Donc, son nom, elle s'appelle séquence. Voilà, son pas d'incrément et surtout la current value, la valeur actuelle de la séquence qui peut être utile. Voilà. Donc, pour générer une nouvelle valeur, comment on fait? On utilise les mots-clés next value for suivi du nom de la séquence. Voilà. Donc ici, dans un select, voilà, je l'ai appelé et j'ai une valeur en retour qui est 1. Si je rappelle ma requête, j'ai une nouvelle valeur qui est 2. Voilà. Et donc, ces mots-clés, next value for, je vais les utiliser directement dans mes inserts, hein, comme ceci par exemple. Là, je crée une table customer avec simplement deux colonnes, ID et first name. Et au moment de l'insert, pour la colonne ID, je tape directement next value for et le nom de ma séquence. Donc j'appelle ma séquence et c'est elle qui va me fournir une valeur pour alimenter ma colonne. Voilà. Donc là j'ai fait 3 inserts. Si je regarde dans ma table, la séquence m'a fourni les valeurs suivantes. Donc j'avais généré tout à l'heure 1, 2, ici j'ai 3, 4, 5. Voilà. Donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'on appelle ces mots-clés next value for, que la séquence nous génère une valeur, la valeur est consommée de manière éternelle, quoi, tout jamais. Donc même si on fait un rollback après avoir fait un appel, après avoir généré une valeur, la valeur ne reviendra pas la prochaine fois qu'on va appeler la séquence. Donc là, si je regarde actuellement, je suis arrivé à la valeur 5. Si je génère une valeur et que je fais un rollback, donc j'ai généré la valeur 6, j'ai fait un rollback, mais la prochaine valeur que je vais générer sera 7, ça ne sera pas 6. Voilà. Donc il faut savoir que lorsqu'on génère une valeur, elle est perdue à tout jamais, quoi. On ne pourra plus la retrouver dans la séquence. Voilà. Donc la séquence peut bien sûr être modifiée, donc avec alter séquence, comme tout objet SQL. Donc par exemple, je peux la faire redémarrer à partir d'une valeur arbitraire, ici 50. Donc si j'insère une nouvelle ligne dans ma table, pour Patricia, elle aura l'ID numéro 50. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Alors bien sûr, l'intérêt de la séquence, ça va être de pouvoir utiliser une seule séquence pour plusieurs tables. Donc on va pouvoir alimenter plusieurs tables à partir d'une seule séquence. Donc là, je remets à 1 ma séquence. Je vais créer deux tables pour l'exemple. Donc là, vous remarquerez que j'ai utilisé default value for avec le nom de la séquence. Je l'ai utilisé directement dans ma instruction create table en valeur par défaut. Donc au moment de l'insert, je n'aurai pas besoin de spécifier de valeur ici pour ma colonne ID. Elle sera directement la séquence sera appelée directement comme valeur par défaut. Voilà, donc là je vais insérer une ligne dans chaque table. Et en utilisant toujours la même séquence. Donc si je regarde dans mes tables, j'ai bien des valeurs qui sont appelées par ma séquence. Donc si je refais une deuxième fois un insert dans chaque table, donc je vois bien que pour ma première table, j'ai la valeur 3 qui a été affectée, et pour la deuxième table, j'ai la valeur 4. Voilà. Donc plusieurs tables peuvent être alimentées par la même séquence. Donc voilà. Donc chose qui n'existait pas sur SQL Server 2008. Donc autre fonctionnalité qui est apparue sur SQL Server 2012, c'est la possibilité de faire du paging sur ces results sets, sur les résultats des requêtes. Donc chose qu'on n'avait pas avant sur SQL Server 2008. Donc actuellement, le paging dans les applications, il se fait souvent dans les applications, justement. Parfois, c'est juste un select étoile qui alimente un data grid, et puis après, c'est lui qui fait le paging. En tout cas, c'est souvent dans l'application. Aujourd'hui, SQL Server 2012 propose une extension de la clause order by, ici, qui va nous permettre de faire le paging. Voilà. Donc ici, on a les mots-clés offset, un nombre de lignes et rows qui va nous permettre d'afficher seulement à partir de la 200e ligne. Voilà. Et si on ajoute à ça fetch next, un nombre de lignes rows only, ça va nous permettre d'afficher seulement un nombre de lignes voilà, dans le result set. Donc ici, je vais afficher seulement 10 lignes à partir de la ligne 200. Voilà. Donc ça, c'était une fonctionnalité qui était très attendue quand même, parce qu'elle voilà, elle n'existait pas. Donc un exemple, sur SQL Server 2008 actuellement, pour faire du paging, on utilise ce type de requête. Donc en fait, on utilise la fonction ronumber qui va créer une colonne artificielle avec un numéro auto-incrémenté. Et on se base sur cette colonne artificielle pour faire le paging, pour sélectionner un ensemble de lignes. Voilà, actuellement, on fait comme ceci. Donc là, j'ai créé une procédure qui me sert à faire mon paging. Sur SQL Server 2012, le code est vraiment simplifié. Donc là, c'est vraiment le but de simplifier le code. Voilà, sur SQL Server 2012. Donc si j'exécute mes deux procédures, j'ai le même résultat. Mais donc les premiers tests semblent montrer que cette nouvelle fonctionnalité est plus performante. Vraiment plus performante, et en tout cas on le voit au niveau des opérateurs. Mais après, à chacun de faire ses tests pour vérifier l'aspect performance. Voilà. Donc pour le paging, nouvelle fonctionnalité très intéressante. Autre nouveauté sur SQL Server 2012, c'est la gestion des erreurs. Donc ça, c'est une problématique actuellement. C'est assez compliqué de gérer les erreurs dans son code. Donc actuellement, on le fait avec RiseError. ResError qui permet de relever une exception. Donc, chose intéressante, donc le nouveau mot-clé s'appelle throw. Donc, pour la lever une exception, le mot-clé sur SQL Server 2012, ça va être throw qui tend à remplacer finalement ResError qu'on utilise actuellement. Donc, pour lever une exception avec un message personnalisé, ça se fait comme ceci. Throw, le numéro de l'erreur et le nom, le message en fait d'erreur. Voilà, ça se fait simplement comme ceci. Alors que sur SQL Server 2008, il fallait au préalable identifier son message, créer son message dans SQL Server avant de pouvoir l'appeler. Voilà, donc la création de messages personnalisés se fait beaucoup plus simplement. Alors, un exemple concret aussi dans un bloc try-catch. Actuellement, pour générer une erreur sur SQL Server 2008, avec ResError, on a besoin de récupérer les informations de l'erreur avec les fonctions ErrorNumber, ErrorState, etc. Donc c'est assez pénible. Hein. On est obligé d'appeler ces fonctions, de les mettre dans des variables pour ensuite construire son ResError. Donc actuellement, sur SQL Server 2008, c'est comme ceci. Voilà, je récupère les infos avec les fonctions error et je construis mon ResError. Sur SQL Server 2012, avec throw, on va pouvoir l'appeler directement et il va me remonter l'erreur originale, donc l'erreur du bloc try, comme ceci. Donc, il faut savoir que le ResError était imprécis au niveau du message d'erreur. Le code, l'identifiant de l'erreur était toujours le même, 50 000. Alors que maintenant, on a le code erreur juste. Et aussi le nombre de lignes. Le nombre de lignes avec ResError parfois était incorrect ici. Alors que throw est beaucoup plus précis. Voilà. Donc une nouvelle fois, on a une simplification du code aussi pour la gestion des erreurs.
Alors juste, je te coupe, je te laisse finir. Pour l'instruction throw, on génère des messages d'erreur de sévérité 16. Il faut le savoir. On n'a pas la possibilité, par contre, comme ResError, de déclencher des niveaux de sévérité beaucoup moins grands.
Ouais. Alors, nouvelle fonctionnalité qui va concerner l'exécution de procédures stockées. Donc on a une nouvelle extension de la fonction execute qui va permettre d'intervenir sur le résultat de l'exécution d'une procédure. Donc là je vais créer une procédure stockée qui prend en paramètre une variable, une valeur, et qui affiche voilà, un résultat comme ceci. Voilà. Donc on a l'apparition sur SQL Server 2012 de WithResultSet, qui est une clause qui va permettre de pouvoir jouer sur les colonnes qui sont retournées par ma procédure stockée, donc que ce soit sur le nom des colonnes et le type des colonnes. Donc à partir d'une procédure stockée qu'on vous donne, vous pouvez en modifier le nom des colonnes dans votre résultat. Dans votre application. Voilà. Donc ici, par exemple, je vais modifier dans mon application le retour de cette procédure. Je vais renommer, par exemple, la colonne SalesOrderID. Je la renomme en ID. Voilà. Donc je peux modifier le résultat de l'exécution de ma procédure sans toucher à la procédure qui est voilà, en base de données. On peut également modifier le type dans une certaine mesure lorsque c'est possible. On peut passer d'un type entier à begint, etc. On peut modifier le type éventuellement du result set de sa procédure stockée. Voilà. Donc, exemple d'utilisation pratique. J'ai une procédure stockée ici qui est apparue sur SQL Server 2012 qui retourne certaines informations sur mon instance. Ici, j'ai une colonne data de type chaîne de caractères, mais qui en fait contient du XML. Je vais pouvoir ici, avec la clause withResultSet, modifier le type de cette colonne data et la passer de chaîne de caractères à XML. Et je vais voir tout de suite que dans Management Studio, il me permet maintenant, il reconnaît le XML et il me permet de cliquer dessus. Donc voilà, on peut modifier à la volée le type, on peut modifier le type de retour d'une procédure stockée. Voilà. Maintenant, je vais passer aux fonctions Donc aux fonctions pures quoi, hein, qui sont apparues dans SQL Server 2000.
Je vais juste préciser, hein, je suis le préciseur, en fait, si vous avez bien compris. Au niveau de WIS Result 7, l'intérêt c'est quoi? Là on peut transformer nos données, etc. Ben avant, comment on faisait avant ça? Bon, on passait par des tables temporaires pour pouvoir ben, caster nos données et pour pouvoir les récupérer par exemple dans la suite de notre procédure. Alors, ça évite l'utilisation des tables temporaires, ce qui est déjà pas mal. Et on a aussi au niveau de SSIS. Au niveau de SSIS, on va pouvoir simplifier nos transformations. Bah, si avec une procédure comme ça, je peux modifier, dans une certaine mesure, nos données, eh ben, il va sans dire que je n'aurai pas besoin d'utiliser des opérateurs de transformation qui sont coûteux sur SSIS. Donc voilà, on va directement modifier à la source, qui est quand même beaucoup plus performant que d'aller modifier dans SSIS en utilisant des opérateurs spécifiques. Donc voilà, je laisse continuer Steven.
Ok. Donc là, je vais passer directement aux fonctions SQL pures qui sont apparues sur SQL Server 2012. Donc des nouvelles fonctions. Ici, par exemple, parse, qui va permettre de convertir une chaîne de caractères en entier ou en date, par exemple. Donc actuellement, on avait déjà convert pour faire ce genre de choses.
Ou cast. Hein.
Ouais. Voilà. Mais convert, on va dire, n'est pas aussi intelligent que parse, puisque par exemple ici, je lui donne ma chaîne qui est 100.0. Il ne va pas pouvoir la convertir en entier parce qu'il ne comprend pas le point dans ma chaîne de caractères, alors que parse va être beaucoup plus intelligent et ici, il va me convertir cette valeur. Voilà. Donc parse va aussi prendre en compte un nouveau mot-clé qui s'appelle using et qui va permettre de passer en paramètre une culture. Donc on va pouvoir convertir sa chaîne de caractères en fonction d'une langue finalement. Ici, voilà.
Donc bien sûr, vous l'aurez deviné, les cultures, ça vient du monde .NET. C'est exactement ce que vous voyez là, c'est vraiment des types .NET. Donc on utilise les propriétés des types .NET pour pouvoir en fait les utiliser sur ces nouvelles fonctions.
Donc là, nouvelle fonction aussi que je vais introduire. Si vous mettez une valeur qui n'est pas convertible, que la fonction ne peut pas convertir, vous avez en retour une erreur directement. C'est pourquoi ont été introduites deux nouvelles fonctions qui s'appellent tryParse et tryConvert. Donc ces fonctions vont essayer de faire la conversion. Si c'est possible, elles vous retournent la valeur convertie. Et si ce n'est pas possible, elles vous retournent nulle. Donc vous n'avez pas d'erreur en cas d'échec de conversion. Ça va être très utile dans les processus de nettoyage de vos données. Si vous avez des données à convertir, vous allez pouvoir les utiliser directement dans un select comme ceci. Et vous allez analyser toute votre table, vous allez voir quelles données sont convertibles ou pas, et ensuite à partir de là, vous avez juste à traiter les nuls. Voilà. Donc ça, c'est intéressant dans un processus de nettoyage de ces données. Voilà. Au niveau des fonctions qui concernent la manipulation du temps, on a de nouvelles fonctions très utiles, comme celle-ci, qui vont nous permettre de créer une date, une valeur au format date ou une valeur au format date time à partir d'éléments de date, comme ceci. Donc c'est tout simple, hein, mais c'est des fonctions qui n'existaient pas sur SQL Server 2008, donc c'était assez pénible de reconstituer des dates. Hein. Il fallait passer par des concats, des castes, etc. Nouvelle fonction également, end of month, qui va permettre à partir d'une date donnée de retourner la date à le dernier jour du mois. Donc ça, c'est une fonction qui n'existait pas. Donc avant 2012, il fallait passer par ce type d'expression. Voilà. Donc avec end of month, on est aussi dans la simplification du code, avec prise en compte des années bissextiles et du mois de février, par exemple. Voilà. Toujours dans la simplification du code, au niveau des fonctions logiques, on a deux nouvelles fonctions qui s'appellent if et choose. Donc c'est des fonctions toutes bêtes. Hein. If, par exemple, prend trois arguments. Le premier argument, c'est une expression booléenne. Elle va être évaluée à true ou à false. Et en fonction de cette évaluation, elle va retourner le deuxième argument ici, ou le troisième. Voilà. Moins 1 est inférieur à 1, c'est true. Donc, if va me retourner true ici. Voilà. Donc ça remplace le case. Avant, on écrivait simplement un case pour faire ceci. Maintenant, on a if. Donc on peut l'utiliser, par exemple, comme ceci, hein, dans un select. En fonction du prix, si le prix est supérieur à 1000, j'affiche une valeur, sinon une autre. Voilà, ça remplace le case. Pareil avec choose, qui remplace un case également. Choose, en premier argument, prend un index ici, et en fonction de la valeur de l'index, retourne la valeur ici qu'on fournit. Ça remplace le case. Je passe rapidement. Nouvelle fonction au niveau des chaînes de caractères, on a la fonction concat qui n'existait pas sur SQL Server 2008. On utilisait plus pour concaténer des chaînes de caractères. Maintenant, on a concat. Chose intéressante, c'est que concat, si on lui fournit un nul, par exemple, ici je vais le faire, si on fournit un nul dans les arguments à concaténer, concat va convertir nul en chaîne de caractères vide et va vous faire la concaténation. Alors qu'avec les plus sur SQL Server 2008, en cas de nul, il vous retourne tout simplement nul pour toute la concaténation. Voilà. Donc chose intéressante ici. Également, si vous fournissez des valeurs qui ne sont pas de type chaîne de caractère pour la concaténation, vous pouvez en fournir des entiers ou des dates, il va faire quand même le concat. Voilà. Alors que sur SQL Server 2008, il fallait passer par des castes préalables. Ok. Donc nouvelle fonction aussi, format, très utile, qui va permettre de formater une date en suivant un certain schéma. Donc pareil, c'est tout bête, hein. C'est vraiment de la simplification du code, mais c'est quelque chose qui n'existait pas, donc c'était assez pénible à faire avant SQL Server 2012. Donc ici, je pars d'une date et je la formate suivant un schéma spécifique pour en retirer voilà ce que je veux. Je peux également utiliser avec la fonction format les cultures qu'on a vues tout à l'heure. Voilà, très utile. Et surtout, principale nouveauté, c'est qu'on va pouvoir créer une chaîne personnalisée, voilà, en utilisant ces schémas ici. Donc si je prends ma date, je pars d'une simple date et je peux la formater exactement comme je veux avec ces schémas-là. Voilà. Nouveauté également au niveau des fonctions analytiques, on a quelques fonctions qui sont apparues sur SQL Server 2012, on peut les connaître sur d'autres SGBD. Par exemple, lag. Donc lag à partir... Donc, je vais l'exécuter, ça va être plus simple. Donc à partir d'une ligne, ici je suis sur la ligne 2 par exemple, j'ai appliqué lag sur la dernière colonne. Et lag permet d'avoir accès à une valeur de la ligne précédente. Voilà, je me situe sur la ligne 2, et ici, j'affiche la valeur de la ligne précédente. Donc ça peut être très intéressant pour comparer des valeurs. Ça, c'est très utile. Voilà, donc lag et lead, qui fait la même chose.
Mais dans l'autre sens.
Mais dans l'autre sens, oui. Donc avec lead, je vais avoir accès aux valeurs des lignes suivantes. Donc par exemple ici je suis à la ligne 3 et j'ai accès aux valeurs de la ligne ici de la dernière ligne là, puisqu'on peut mettre un offset ici. Voilà. Autre fonction, on a first value et last value qui vont nous permettre de d'extraire la première valeur ou la dernière valeur ici d'une partition. Donc j'appelle first value ici sur ma partition qui est territory name. Donc concrètement, pour chaque territory ici, j'ai la first value dans cette colonne-là et la last value ici dans cette colonne pour chaque groupe ici. Voilà, ça peut être intéressant. On a d'autres fonctions plus complexes pour l'analyse. Comme ici cumdist qui calcule la distribution cumulative d'une valeur par rapport à un groupe. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas on a de nouvelles fonctions à ce niveau-là très intéressantes.
Alors ça, c'est des fonctionnalités qui n'existaient pas sur SQL Server, qui ont été très attendues. Donc tout ce qui est lead lag, ça évite d'aller avoir à faire des jointures et d'aller remonter le résultat moins 1. Au niveau c'est surtout l'intérêt, surtout ici, c'est le niveau performance. Ça permet vraiment d'optimiser ces requêtes, donc ce qui n'est pas forcément négligeable.
Ok. Donc, je crois qu'on est un peu en retard. Je vais laisser David finir. Voilà.
Ok. Bon, moi, je vais continuer dans la lignée de Steven. Au niveau du transact SQL. Donc, en fait, on a deux dernières choses parmi celles qu'on voulait vous présenter. C'est le support UTF-16. Donc là, je ne vais pas faire de démonstration. Il faut simplement savoir qu'au niveau tout ce qui est caractère Unicode, SQL Server maintenant gère l'UTF-16. Ben c'est quoi l'UTF-16? C'est de pouvoir gérer les caractères, les fameux caractères supplémentaires, supplementary characters, qui pouvaient nous échapper avec SQL Server 2008. Alors, je ne rentre pas dans le détail des supplementary characters, mais simplement un caractère à un code point dans la nomenclature Unicode. Et ces code points, y compris dans un certain intervalle de valeur. Certains caractères, ben pour pouvoir les coder, sortent de cette plage. Et au niveau de SQL Server, on avait des problèmes sur quoi ? Ben sur le traitement de ces chaînes de caractères. On avait des longueurs qui étaient imprécises. On avait tout ce qui était affichage aussi des caractères. On pouvait se retrouver avec des problèmes. Donc voilà, donc tout ce qui est support UTF-16, c'est géré maintenant sur SQL Server, et même au niveau des requêtes XML, on a ce support-là. Ce que je voulais vous montrer, c'est surtout les file tables. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée avec SQL Server 2012. Donc, qui connaît FileStream avec SQL Server 2008? Qui a déjà utilisé ça? Personne? Bon, bah, très bien. Alors, FileStream, on va simplement... Ben, c'était une nouvelle fonctionnalité avec SQL Server 2008 qui permettait de pouvoir... En fait, l'idée, c'est de sortir les données non structurées en dehors de la base de données. Pourquoi ? Ben, parce que ces données ne sont pas forcément bien gérées par SQL Server. Une base de données, ça ne sert pas forcément à ça. Enfin, en tout cas, une base de données relationnelle. Donc le but, c'était de sortir les objets volumineux, les données non structurées, sur le système de fichiers, tout en gardant une intégrité référentielle au niveau de la base de données. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas supprimer un fichier lorsqu'on on passait par Windows, par exemple, tant que celui-ci n'était pas supprimé depuis Transact SQL. Donc ça, c'est FileStream. Le problème avec FileStream, bon, c'est bien, mais il fallait passer par les API FileStream pour pouvoir les utiliser. Donc ça veut dire que si on voulait migrer nos applications vers FileStream, il y avait un refactoring du code à faire, donc redéveloppement, etc. C'était pas forcément ce qu'on voulait. Avec SQL Server 2012, la donne a un peu changé. On va utiliser FileTable, c'est une surcouche de FileStream. Et là, on va pouvoir gérer nos fichiers comme si on était sur un explorateur Windows que vous connaissez. On va pouvoir faire exactement les mêmes opérations. On va pouvoir utiliser dans nos applications le fameux namespace system IO. Donc on va pouvoir très facilement migrer nos applications. Alors comment ça marche? Alors comme je vous disais, il faut intégrer FileStream. Donc j'ai déjà activé au niveau du service. Je l'active au niveau de l'instance ici. Donc avec sp-configure FileStream access level. Donc le 2 signifie que les applications clientes pourront avoir accès à mes fichiers. Ici, je vais créer en fait une base de données. Alors pour pouvoir utiliser FileTable, il faut commencer par créer une base de données. Alors si, voilà. Ici, je vais juste voilà, récupérer. Ici, contain FileStream. Donc ça, c'est un prérequis. Ensuite, il va falloir lui dire au niveau de FileStream, bah, j'ai besoin de deux choses. FileStream, en fait, je vais l'utiliser en non-transacted access. Donc là, en full, ça va permettre quoi? Ça va permettre aux applications Windows d'obtenir un handle sur les fichiers depuis Windows sur nos fameux fichiers de base de données. Sans ça, l'application client ne va pas pouvoir obtenir un handle, on va avoir notre fameux le fichier est utilisé par un autre process, etc. Ensuite, on peut lui donner en fait un directory name, ça va être notre route. En fait, on va utiliser un chemin UNC avec FileTable. Donc on va utiliser il va falloir lui définir une route. Donc ici, je vais l'appeler document. Donc c'est ce que je vais faire ici.
si ici je reviens sur mon système de fichiers, donc en fait, avec FileStream, ça me crée un partage. Donc là, c'est le nom de mon serveur. Ça me crée un partage MS SQL serveur par défaut. Et là, je viens de créer en fait document, ma racine. Donc pour le moment, j'ai rien dedans. Maintenant, je vais créer ma table FileTable. C'est une table de type FileTable. Donc comment on fait ça? Bah, il suffit de créer ici l'instruction, c'est create table dbo document store. Je vais l'appeler document store as file table. Donc on a d'autres options comme lui donner aussi un nom de répertoire si je veux stocker sur, enfin je veux structurer ma hiérarchie de façon différente, et aussi une collation si j'ai des documents en Unicode. Ça peut être pas mal de préciser ici ce que je vais utiliser comme collation. Donc c'est ce que je vais faire ici. Sauf que je ne l'ai pas. Il faut peut-être que je me mette dans la bonne base de données déjà. Voilà. Alors vous voyez ici que j'ai un fichier document store qui est apparu. Donc je reste dedans. Alors maintenant, comment je vais faire? Alors, je disais tout à l'heure qu'on peut très bien agir comme si on était sur un système de fichiers Windows. Donc j'ai récupéré là toute une structure FileTable. Vous voyez, j'ai des dossiers, des fichiers TXT, des fichiers Word, des fichiers .SQL. Moi, je vais copier ça dans ma table. Ah ben, ce que je vais faire, je vais récupérer ça, copier, je vais coller, et voilà, c'est terminé. J'ai mis mes fichiers dans ma base. En fait, ce que j'ai fait, j'ai inséré mes lignes de données dans ma base, dans ma table FileTable. Si je fais une interrogation de ma table document store ici, si je fais un petit select, vous voyez ici que je me retrouve avec un stream, les noms de mes fichiers, mes dossiers. Bon, après il y a le pass locator, etc. Donc en fait il faut un peu traduire. Il y a des fonctions pour ça, je vous le montrerai tout de suite après. Ce qui est important ici, c'est qu'on retrouve. Hop. Ce qu'on peut avoir comme propriété NTFS d'un fichier, la création, le temps de création, enfin la date de création, pardon, le dernier accès, etc. Si mon fichier est en lecture seule, si c'est un répertoire, s'il est offline, s'il n'est plus visible, etc. Donc il est caché. Donc voilà. Ici j'ai des fonctions file table route pass qui me permet d'aller définir la route de mon document. Et le getFileName space pass qui me permet d'aller récupérer le chemin relatif. Donc ce qui me permet derrière de pouvoir générer, en fait, de connaître vous voyez ici que je récupère en fait sur un chemin UNC, c'est avec ces chemins UNC qu'il va falloir travailler avec nos applications. Alors on peut très bien mettre à jour depuis SQL certaines propriétés de mes fichiers. Par exemple, si je prends mon fichier ici, doc1.txt, vous voyez qu'il n'est pas en lecture seule, moi je vais pouvoir le mettre en lecture seule. Alors soit je passe par le système de fichiers de manière classique, soit je fais un update de la colonne isReadOnly à 1, et mon fichier ici a la propriété readOnly de paramétrer. Donc on peut le faire des deux manières. Ensuite, on a simplement pour vous montrer ici, quand on crée des file tables, on a des objets annexes qui sont créés tout simplement pour garder une certaine intégrité dans votre structure. Par exemple, ne pas pouvoir créer un dossier avec un même nom, deux dossiers avec un même nom dans un répertoire. Ça va se faire à ce niveau-là, au niveau des contraintes que vous voyez ici. Et enfin, comme on peut attaquer nos fichiers soit par Windows, soit par SQL Server, certaines fois, il est bon, je sais pas, vous voulez faire une maintenance sur votre table, vous voulez réordonner, restructurer votre hiérarchie de dossiers directement par SQL Server, il va peut-être d'abord falloir regarder si j'ai des handles qui sont des applications qui tiennent mes fichiers. Vous avez des applications qui viennent se greffer dessus. Donc ici, par exemple, si j'ouvre mon document Word,
normalement, il doit être vide, hein, il n'y a rien. Mais simplement pour vous montrer ici, eh ben, que j'ai un handle qui tient, en fait, ici, mon fichier. Donc Word. Word.docx. Et derrière, je vais pouvoir, en fait, ce qui est bien, c'est de pouvoir aller récupérer le process qui doit être. Alors, il faut juste que je récupère ici le process Windows qui est 4092 ici. Donc, en fait, il suffit après d'aller avec un taslisk. J'ai mis la commande ici pour gagner un peu de temps. Donc, j'ai dit 4092. Il faut juste que je fasse. Je vois ici que c'est. Bah en fait, c'est Word hein, qui tient. Bah alors après, qu'est-ce que je fais? Bah soit je demande à l'utilisateur ou je ferme l'application qui tient ce fichier. Ou soit bah, j'y vais, j'allais dire comme un bourrin, et puis je tue. Mes handles. Alors vous pouvez, via la procédure spkill filestream non-transacted handles, bah, supprimer ces handles sur vos fichiers pour pouvoir faire vos maintenances. Soit vous le faites au niveau de votre base de données, soit au niveau de la table, soit au niveau du handle directement. Vous pouvez, vous avez des moyens de filtrer. Donc là, je vais le faire au niveau de la table. Vous voyez ici que je peux récupérer, bah, que j'ai tué mon handle sur mon fichier. Alors évident que tout ce qui a été, si j'avais fait des mises à jour ici, tout ça c'est perdu. Ok, très bien, on a fini avec tout ce qui était nouveauté Transact SQL. Alors on va finir avec le. Pardon ? Ouais. Donc en fait, les index colon store. Donc les index colon store, très rapidement, sont arrivés avec. Est arrivé avec SQL Server 2012. C'est axé requête. Surtout les requêtes de reporting, avec beaucoup de volumétrie, avec des grosses opérations d'agrégation, etc. Donc c'est surtout pour ça. Donc ce que je vais faire, je vais simplement lancer ma requête ici. Je vais commencer par ça et je vais continuer mon explication après. Alors, c'est simplement, j'ai créé une grosse table, Big Transaction History, ici, qui va contenir... Alors, si je regarde... Plus de 250 milliards de lignes. Je devrais arriver à quelque chose avec ça. Et il y a 10 gigas de données. Bon. Sur mon serveur, j'ai 3 gigas. Hein. J'ai limite à 3 gigas pour pouvoir faire mes tests. Alors, je vais lancer ma requête. Alors, j'ai lancé ma requête en classique. Donc, ça va faire un. J'ai un index cluster. Donc, il va. Avec la quantité de données que je dois ramener, il va scanner l'index cluster. Donc, il va me ramener l'ensemble de mes données. Donc, la requête a duré. Si je me trompe pas, quelque chose comme 8 minutes. Là, je vais lancer ma requête avec l'index, en utilisant l'index colon store. Et puis, je continue mon explication, on reviendra après. Alors, l'index colon store, comment ça marche? Eh ben, on a ben, le format de données, le stockage des données a changé. On est passé avant avec SQL Server. On stocke des lignes de données dans les pages. Maintenant, ça va être des colonnes qu'on va stocker. Donc, qu'est-ce que ça amène, ça? Bah, une optimisation au niveau de l'espace utilisé, car les colonnes, les valeurs de colonnes, par exemple, dans des tables de faits, ça va très facilement se compresser. Donc, en fait, les colonnes index store sont nativement compressées, donc avec X-Velocity, pour ceux qui connaissent. Donc, on arrive à des gains vraiment intéressants de compression, beaucoup plus que la compression normale avec SQL Server au niveau page. On a quoi? Ben, on a une réduction des ressources I/O, on a moins d'I/O à lire, on a donc moins de CPU. On a également l'apparition du mode batch, pour ceux qui font un peu de requêtes et puis de lecture de plans d'exécution. Donc, ça veut dire quoi? Ben, au lieu d'aller gérer nos données ligne à ligne, eh ben, on va gérer nos données de colonnes, on va ramener nos colonnes, et eh ben, on va les gérer par lot, donc en fait par lot de 1000 lignes dans la colonne. Donc ça va permettre d'économiser des cycles CPU, donc on va pouvoir augmenter également les performances au niveau CPU. Donc bien sûr, il y a des limitations hein,
au niveau des types gérés, par exemple, tout ce qui est XML, tout ce qui est binary, etc., c'est pas géré, dommage. Lorsqu'on crée un index colon store, les tables sont en lecture seule, faut le savoir. Donc bon, si elles sont en lecture seule, bah, y a deux moyens de faire, c'est soit de supprimer l'index et de mettre à jour nos données, ou soit d'utiliser le partitioning, pour ceux qui connaissent, et de faire des switches en fait, de récupérer la partition qu'on va mettre à jour, la rendre en lecture-écriture, de la ramener, etc. Donc on a des moyens de contournement. Donc si je reviens ici, voilà, elle est finie. Donc elle m'a pris combien de temps ici? 1 minute au lieu de 7. Alors 1 minute, j'ai fait un peu le calcul. Ça, c'est le temps... Alors, j'ai augmenté un peu. Vous voyez ici, en fait, que le temps CPU, j'ai économisé 86% de temps CPU. J'ai économisé 70% de lecture I/O. Donc c'est quand même pas mal. Et au niveau temps, j'ai gagné 87% de temps avec les index colon store. Donc ça, c'est vraiment un outil en plus à prendre en considération pour nous développeurs, surtout quand on va faire des requêtes de reporting ou des requêtes de type, on va dire, OLAP, donc avec des grosses quantités de données. Là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc je ne rentre pas dans le détail, venez nous voir, on a un stand pour ça si vous voulez un peu plus de détails sur les index colon store. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les technos et l'architecture. Donc voilà, on a fini au niveau de notre présentation. Donc simplement pour résumer, hein, nouveauté en termes d'outils, nouveauté en termes de code, nouveauté en termes de performance pour les développeurs. Donc voilà, maintenant on va peut-être passer aux questions si on a le temps, très rapidement. Des questions? Oui. Oui. L'intérêt dans un environnement SharePoint, c'est de pouvoir. Alors, quand on était si on utilisait FileStream, il aurait fallu utiliser les API FileStream. C'était un peu. Il aurait fallu développer. Par contre, avec SharePoint, ce qu'on peut faire, c'est attaquer par le chemin UNC et puis aller directement importer nos données directement de SQL Server à SharePoint. Bien sûr, il faut avoir deux systèmes annexes. Il ne faut pas avoir les données dans SharePoint ou ce genre de choses. Alors après, derrière, est-ce que SharePoint gère FileTable j'en sais rien du tout, je vous avoue. Je sais qu'on peut utiliser, par exemple, avec SharePoint, tout ce qui est RBS, Remote Blob Storage, mais qui utilise FileStream. Mais derrière, est-ce qu'on va pouvoir utiliser SharePoint avec FileTable? Ça, c'est une autre question. J'en sais rien. Est-ce que c'était ça le sens de votre question? Le problème, c'est qu'avec... je ne sais pas combien de données vous stockez avec SharePoint, mais dès que vous commencez à dépasser la centaine de gigas, alors je ne sais pas si c'est le cas chez vous, à 300 gigas, quand on augmente même un peu plus, le problème, c'est le temps d'administration, déjà. Quand vous faites des rebuilds d'index et des choses comme ça, au niveau mémoire, derrière, ça pousse. Quand vous êtes au niveau, par exemple... Quand vous allez lire vos données, plus vous allez avoir de données. Enfin, tout dépend la taille de vos fichiers à l'intérieur. À un moment donné, je sais que nous, par exemple, pour des clients, on a conseillé Remote Blob Storage, qui permettait en fait de déporter ça. Pourquoi? Parce que pour SQL Server, vous avez besoin de disques rapides, en général, pour pouvoir lire vos fichiers. Tandis qu'avec, en mettant ça sur un file system, vous pouvez très bien faire l'économie de disques rapides, les garder pour SQL Server, et pour tout ce qui est système de fichiers, les mettre sur des disques moins rapides et de profiter du cache système. Donc ça, l'intérêt peut être là. Donc il y a la maintenance et les accès qui deviennent de plus en plus, pas forcément, performants, plus la volumétrie augmente. Donc voilà. Alors peut-être que vous ne l'avez peut-être pas encore constaté, vous. FastSearch, non, normalement non. Avec FileStream, lorsque vous changez, c'est transparent. Ça ne change rien du tout aux fonctions SQL Server de search, des trucs comme ça. C'est transparent. C'est simplement on déporte et on a une API SharePoint qu'on installe et en fait qui rend les choses transparentes. Donc là on l'a déjà fait, nous ça fonctionne. Fast search, oui. D'autres questions? Non? Bon, bah, très bien. Bah, merci à vous. Merci d'avoir écouté tout au long de cette session. Bon, bah, et puis, bah, si vous voulez des questions, comme je disais, retrouvez-nous au stand Essentia. On fera un plaisir d'y répondre. Merci à vous.